complet. Souvent, c'est notre texte de départ. Donc, Colossiens chapitre 3, on va juste lire les quatre premiers versets. Colossiens 3, 1 à 4. On l'a lu tantôt, on a lu le chapitre au complet, mais je veux vraiment me concentrer sur une vérité qui est dans les versets 1 à 4. Colossiens, chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » On va prier. Seigneur, on te remercie de ce qu'on peut, oui, s'arrêter pendant un instant, tous ces bruits du monde et dans nos cœurs, Seigneur, qui fassent un plein silence devant ta majesté, parce que c'est toi qui parles, Seigneur. C'est ta parole et, Seigneur, c'est ton esprit qui souffle, qui parle, qui convainc. Et Seigneur, on veut vraiment s'en remettre en tes mains pour que tu fasses ton œuvre. On te loue que déjà tu es à l'œuvre. On te loue pour ta bonté, ta patience, ta grâce. Ah, et Seigneur, on te prie maintenant parce que il faut absolument que tu continues, Seigneur. C'est toi qui fais les bonnes choses. C'est toi qui fais la différence, Seigneur. On ne veut aucunement s'appuyer sur notre bonne volonté, sur les bonnes intentions qu'on pourrait avoir, mais vraiment, on s'appuie sur toi, Seigneur, parce que c'est toi qui fais le vrai travail. Seigneur, c'est toi qui sauve, c'est toi qui sanctifie, c'est toi qui fais, Seigneur, tout ce qui est bon. Alors, on te prie de le faire maintenant et de te glorifier dans ces choses, Seigneur, pour montrer le grand Dieu merveilleux que tu es. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on a lu au verset 3 hein, que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette expression? Ben, d'abord, on peut dire que ça réfère à une position dans les lieux célestes et quelque chose qui est lointain, qu'on n'a pas encore expérimenté encore, qu'on n'a pas encore vécu, on n'est pas encore au ciel. Mais aussi, et c'est le sens du verset ici, ça réfère à une vérité de la vie chrétienne qui n'est pas visible et évidente, mais qui est tout autant réelle et actuelle. Parce que c'est ici, ça ne parle pas de quelque chose de plus tard qui va arriver peut-être, ça parle de quelque chose d'actuel qui est maintenant une réalité spirituelle. Et le message de ce matin va se pencher là-dessus. En lien avec le thème, oups, y a-t-il quelqu'un qui peut changer le calendrier? En lien avec le thème du mois de mai, qui est que Dieu révèle les secrets. Et le titre du message, c'est simplement « Caché à la vue de tous ». Vous avez déjà entendu ça, c'est plus une expression peut-être qui est anglais, « Hidden in plain sight », okay? « Caché à la vue de tous ». Et vraiment, j'aimerais qu'on regarde ça parce que ici, on parle d'un trésor. C'est-à-dire, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et cette vie, c'est le trésor. C'est le plus grand des trésors. La vie de Christ, c'est la vraie vie. C'est celle qui satisfait. C'est celle qui est vraiment la vraie vie au sens où est-ce que Dieu nous a créés pour cette vie-là. Et je veux juste vous faire un peu comprendre ce que je veux dire avec ça. Vous savez, dans ma vie personnelle, on a parlé hein, déjà depuis 2020, début 2021, on a eu toutes sortes de déceptions, toutes sortes de choses, mais quand on regarde comme il faut, et je parle dans ma vie personnelle, je vois une réponse à une prière profonde de mon cœur et aussi à des gens autour de moi, proches de moi, des gens dans l'église, où est-ce qu'on se dit, coudonc, il y a quelque chose peut-être qu'on manque, ou pour reprendre ce que j'ai déjà dit dans le message, il y a peut-être quelqu'un qu'on a passé à côté, Dieu lui-même. Et je pense qu'il y a une réponse aux prières dans le sens que dernièrement, depuis la dernière année, j'ai entendu des expressions comme « Qu'est-ce que ça veut dire « Christ est ma vie » ?» Ou « Il doit y avoir quelque chose de plus à la vie chrétienne que ce que je connais en ce moment. » Ou « Je crois qu'on passe à côté de l'essentiel à quelque part. » Et savez-vous quoi ça? C'est le concept de ce qu'on parle de notre vie qui est cachée en Christ, elle est là, comme cachée à la vue de tous. Et pourquoi c'est comme ça? Ben, j'aimerais vous dire que les personnes qui ont dit ça, et j'ai dit certaines de ces expressions, avaient tous en commun de chercher Dieu, de chercher celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Et j'aimerais vous dire également que malheureusement, beaucoup d'entre eux n'étaient pas compris, non seulement par le monde, ça c'est pas surprenant, mais même par beaucoup de chrétiens qui ne comprenaient pas. Et même des fois au point d'avoir des problèmes avec ces derniers. Et je pense que, vous savez, il y a un verset de la parole qu'on connaît, peut-être qu'on connaît juste la moitié, ça dit « Et je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Savez-vous que ce n'est pas la fin du verset?
Non.
Parce que tout de suite après, ça dit « Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir. » Vous savez, quand on trouve Christ, la vie qui est en lui, quand on trouve cette vraie vie qui est celle qui satisfait, il y a aussi les souffrances qu'il y en avait. Pourquoi? Parce que Jésus est un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Jésus était parfait. Il vivait constamment dans la plénitude de l'esprit, constamment dans la dépendance à son Père. Et à cause de ça, dans un monde déchu et avec des gens pécheurs comme nous, ça voulait dire la souffrance. Et ce que j'aimerais qu'on explore ensemble ce matin, c'est que c'est un trésor qui vaut la peine de chercher.
Amen.
Parce que quand on trouve, même s'il y a de la souffrance, la joie, la paix qui en vient, ça va au-delà de tout ce qu'on pourrait souffrir, de mal être compris par le monde, par les chrétiens. Et j'aimerais dire une chose à ce sujet-là. Vous savez, je pense que ce trésor, pour le mettre dans une autre référence du Nouveau Testament, c'est la vie de Romains 8, la vie par le Saint-Esprit. Mais je crois que pour arriver là, souvent on a besoin d'errer dans Romains 6, Romains 7. Et là on lutte, on a de la misère, on avance, on recule, un pas en avant, deux pas en arrière. Et on arrive à ce cri du cœur, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et ça, j'appelle ça la théologie de la lutte. C'est-à-dire, on lutte, puis un peu comme c'est décrit dans Romains 7, 21 à 23, « Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. » Mais c'est la bonne question. Il dit, qui peut me délivrera de ce corps de mort? Et c'est ça, quand on arrive à ce point-là, à la fin de la lutte de Romains 6, Romains 7, et qu'on se pose la question, qui me délivrera? C'est quoi la réponse inspirée? Grâce soit rendue à Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la solution, puis l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, et vivre par l'Esprit, c'est vivre par la vie de Jésus-Christ. Et quand on a trouvé ça, on ne veut plus rien d'autre, parce qu'on a trouvé tout ce dont on a besoin. Nous avons tout pleinement en lui. Et la question est simple, elle est tellement fondamentale. Cette vie, ce trésor caché à la vue de tous, il faut simplement le chercher pour le trouver. Dieu l'a caché, pas parce qu'il ne veut pas qu'on le trouve, parce qu'il veut qu'on le cherche. Parce que quand on le trouve, c'est précieux. Puis que c'est pas quelque chose de cheap, que juste, ah, oh, t'as ça, puis tu vas le jeter dans les poubelles. Non, non, hey, c'est précieux. Tu l'as trouvé. Tu vois qu'il n'y a rien de plus précieux que ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose, je fais un parallèle avec la situation actuelle. Vous savez, c'est quand même ironique que, OK, je parle souvent de 2020-2021. OK, on a vécu toutes sortes de choses, mais n'est-ce pas ce que Dieu, puis j'en parlais la semaine dernière et je reviens là-dessus, n'est-ce pas ce que Dieu a utilisé de toutes sortes de manières dans nos vies, dans cette Église, pour qu'on découvre les trésors qui sont en Jésus-Christ, ou pour reprendre une expression, les richesses incompréhensibles de Christ? Je sais pas pour vous, mais pour moi, je regarde 2020-2021, puis là, je mets côté, là, le côté plate, le côté souffrance, le côté dissonance cognitive, OK, parce que j'ai passé par tout ça. Mais je regarde au bout du compte ce que Dieu a fait. Puis ce que j'ai trouvé de mon Dieu, ce que Dieu m'a révélé sur lui, mes amis, ça vaut la peine de tout ce que j'ai passé. Et ça, j'aimerais que vraiment on puisse s'arrêter là-dessus pour voir la différence, si est-ce que je le cherche. Tu sais, puis même dans le monde physique, n'importe qui peut se rendre compte, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde, n'est-ce pas? Puis on pouvait s'en rendre compte avant 2020. Mais là, si on s'en rend pas compte, c'est parce qu'on veut vraiment garder les yeux fermés. On veut pas chercher, on veut pas savoir. Non, mais c'est vrai. Tu sais, on voit, tu sais, puis nous, en tant que chrétiens, on comprend, tu sais, parce que la lumière, la parole, j'ai de la lumière là-dessus. Tu sais, les chrétiens, là, c'est des conspirationnistes. Parce qu'on croit qu'il y a un Dieu, qu'il y a Satan, puis qu'il y a une guerre entre les deux, puis qu'il y a un monde invisible, qu'on est dans une guerre spirituelle. Ça fait une pas pire conspiration, n'est-ce pas? Fait que c'est pas depuis 2020 que les chrétiens sont conspirationnistes, c'est depuis qu'on connaît la parole de Dieu, on sait qu'il y a plus que ce que nos yeux physiques voient. Mais l'idée, c'est que quand on cherche à comprendre, puis on peut voir ça dans le monde, il y a des gens qui ne connaissent pas encore ça, mais qui se disent, « Coudain, il y a des affaires qui ne marchent pas, puis ils cherchent, puis ils se rendent compte, « il y a plus que ce que j'entends, il y a plus que ce que je vois. » Mais ça, c'est dans le monde physique. Dans le monde spirituel, c'est là le plus important, parce que le spirituel dirige, domine le physique. Et donc, si je trouve ce qui est caché à la vue de tous dans le domaine spirituel, j'ai la clé, j'ai pour comprendre tout ce qui arrive. Et comme je vous l'ai déjà dit, le problème qu'on vit en ce moment, c'est pas un virus, c'est pas des mesures draconiennes ou excessives, ou peut-être y a peut-être une famine qui pourrait s'en venir, une crise économique. C'est des problèmes, mais c'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est la tromperie qu'il y a depuis la nuit des temps, que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. C'est ça la plus grande tromperie, c'est ça la grande conspiration, puis ça a commencé bien avant le COVID. Et l'idée qu'on peut sauver nous-mêmes, ou, écoutez bien, qu'il y a un espoir à quelque part en quelqu'un autre que Jésus-Christ. Parce que mes amis, ça, même les chrétiens peuvent tomber dans le panneau. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, ben, je vais faire ci. Ici, on en parle, la sanctification par les œuvres. Si je fais ci, si je fais ça, ça va bien aller. Mes amis, il n'y a pas d'espoir dans ce que moi je peux faire ou de ce que je ne fais pas. Le seul espoir pour le monde, pour les chrétiens, pour tout le monde, c'est Jésus-Christ et lui seul. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est ça le trésor. C'est ça qu'on doit chercher plus que tout. Et mes amis, il y a un côté où est-ce que les chrétiens devraient sortir de nos gonds. Tu sais, là, hier, il y a eu une manifestation à Montréal, puis tout ça, puis le monde se rend compte, ouais, il y a des affaires qui ne marchent pas. Mais nous, en tant que chrétiens, à voir ce monde qui essaie de sauver lui-même, de trouver la rédemption en dehors quand Jésus-Christ devrait dire, non, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur le soleil par lequel nous puissions être sauvés, autre que celui de Jésus-Christ. Mes amis, les chrétiens devraient assaillir le trône de la grâce, puis intercéder, prier, proclamer l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, prier comme les apôtres d'autrefois, « Seigneur, donne-nous l'hardiesse pour proclamer ta parole envers et contre tous, malgré l'opposition. » C'est là qu'on devrait être en tant que chrétien. Pourquoi? Parce qu'on voit le monde se détruire, on voit le monde trompé. Et c'est ça le plus grand problème en ce moment. Pourquoi on n'est pas outré? Pourquoi on n'est pas plus vocal qu'on l'est là? Pourquoi l'Église de Jésus-Christ dort et se meurt? Parce qu'on n'a pas trouvé le trésor. Parce qu'on passe à côté de l'essentiel. Quand on a trouvé le trésor, puis il est caché à la vue de tous, c'est pas qu'on ne peut pas le trouver, mais il faut le chercher. Et quand on trouve ça, tout le reste change. La perspective change complètement. Tantôt, dans le temps de prière, vous avez entendu, j'ai nommé le nom Amim. J'avais jamais trop... Non, Amin, Amin. Ça me faisait penser comme en roumain. Les Roumains, hein, si on était à l'église en roumain, ils nous disaient Amin, Amin, preach. OK, nous, on dit Amen. Ben, Amin, c'est le nom, c'est ce qu'on dit en roumain quand on veut dire Amen. Mais le gars, j'étais là en train de tinker. Puis le Saint-Esprit, c'était de bonne heure le matin, il n'y avait pas personne, puis le Saint-Esprit, il me met à cœur. Il dit, j'aimerais ça que tu parles au gars qui était... Je le connais pas, là, je ne sais pas c'est qui, là, puis là, je suis en train de t'inquiéter. Vous savez, c'est quoi, hein? Le Saint-Esprit, il parle à nos cœurs. Là, j'aimerais ça que tu y parles de moi. Puis ça donne bien, il y avait des clients, puis oups, ils s'en vont tous. J'arrive, j'étais tout seul avec lui dans la station-service. Là, je paye mes affaires. Là, je sors mon traité, j'ai dit, je t'invite à considérer Jésus-Christ. Puis là, on commence à parler. Il était super ouvert. Puis d'après son nom, puis d'après ce que je peux comprendre, je pense qu'il est dans une religion qu'on appelle musulmane. Et vous savez quoi? Les musulmans sont très sincères. Ils ont vraiment une crainte pour Dieu, mais malheureusement, c'est pas le Dieu qui sauve. C'est une série de commandements, puis des choses à faire. Un musulman lui-même m'a dit, « Mon ami, j'ai jamais l'impression que je suis correct avec Dieu. J'ai un fardeau constant sur mes épaules. » C'est ça la religion. C'est ça la religion. Et savez-vous quoi? Dieu m'a donné l'occasion de partager le trésor. Et ça, ça change la perspective. C'est quoi? Amim, là, son plus grand problème, là, c'est pas qu'il est né dans la mauvaise religion puis tout ça. C'est pas qu'il peut être malade, ça. C'est qu'il n'a pas encore rencontré Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le seul Sauveur. Et mes amis, j'espère que vous allez vous joindre à moi pour prier pour le salut de cette âme précieuse. J'aimerais qu'on regarde ensemble. Et là, on va s'en aller dans Romains. Ça, c'était mon introduction. J'aimerais qu'on s'en aille dans Romains 6. Et ça va être simple. On va juste voir quelques versets. Un dans Romains 6, un dans Romains 7, puis un dans Romains 8. Ça va être ça le message. Dans Romains 6, 14, on va faire trois découvertes pour nous ouvrir les yeux sur ce trésor qui est caché à la vue de tous. D'abord, dans Romains 6, un verset très important dans le chapitre, au verset 14, ça dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » J'aimerais qu'on découvre une nouvelle réalité spirituelle. Une nouvelle réalité spirituelle. Il faut comprendre ici que lorsque la fameuse expression, des fois c'est galvaudé, « Ah, oh, je vis sous la grâce », comme si c'était une licence à faire n'importe quoi, puis ce qu'on veut. Non, vivre sous la grâce, ça signifie foncièrement de vivre sous une nouvelle autorité. Une autorité bienveillante, personnelle, l'autorité de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et vivre sous la grâce, c'est dépendre de lui. Pour nous diriger, pour nous donner la force, lui qui est l'auteur, vous voulez, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Ça signifie que vivre sous la grâce, c'est vivre du surnaturel. Si quelqu'un veut dire, « Ah, moi je vis sous la grâce, puis je fais ci, je dis, est-ce que c'est surnaturel ce dont tu me parles? » Vous savez, si quelqu'un vous dit qu'il vit sous la grâce, puis il fait ce qu'il veut, ou il se met sur toutes sortes de règles, il passe à côté de celui qui est surnaturel. Vivre sous la grâce, c'est vivre d'une façon qui ne s'explique pas humainement. Pourquoi? C'est vivre de la vie de Dieu lui-même. C'est être sous le contrôle de sa puissance bienveillante. Ce Dieu qui est souverain, c'est se placer sous son contrôle. Donc, c'est pour ça que vivre sous la grâce, c'est pas essayer de faire, de contrôler. C'est plutôt le laisser faire, contrôler, prendre les initiatives, déterminer les buts. Pourquoi? Parce qu'il est le but qui détermine tous les buts. Dernièrement, j'ai vu quelque chose, vécu quelque chose qui aide à comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire vivre sous la grâce? Bien, dernièrement, pendant mes temps de prière, mais aussi des fois à travers comme ça, boum, à travers la journée, le Seigneur me ramenait tout le temps un frère avec lequel il voulait que je me réconcilie. Fait que je m'humilie devant lui et demander pardon parce que je ne l'avais pas traité d'une manière digne de Christ. Lui, mon frère, dans le Seigneur, pourrait dire, « Ouais, mais j'avais raison parce que c'est pas correct. » Puis tout ça, ce qu'il fait. « Non, non, c'est-tu quoi? » Le Saint-Esprit me le disait clairement. « Non, t'as pas une bonne attitude. C'est pas christique. Puis il faut que tu ailles le voir, que tu t'humilies devant lui. » Je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas nécessairement le genre d'affaire que je vais courir après puis que je mets au top de la liste de to-do list. D'habitude, c'est plus « Ouais, OK, éventuellement. » Mais le Seigneur me lâchait pas avec ça. Puis je suis allé, je l'ai vu, et c'est tellement merveilleux. Parce que, tu sais, quand on vit sous la grâce, là, on expérimente la grâce. Je regrette tellement pas. C'est tellement beau ce que le Seigneur a fait à travers ça. Et j'aimerais juste vous dire, ça l'illustre ce que je viens de la petite histoire que je viens de vous raconter. Ça nous montre que vivre sous la grâce, ça l'exige l'humilité. Et je vous cite un verset là-dessus qui va dans ce sens-là. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » OK? Pourquoi? Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, vivre sous la grâce, c'est vivre dans l'humilité. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais aussi, vivre sous la grâce, ça implique une libération spirituelle. Ça implique de sortir du joug, du fardeau, de la culpabilité, d'une conscience qui nous accuse. Parce que c'est ce qu'il y avait avant que je rencontre mon frère, avant que je m'humilie devant lui. Ça me ramenait tout le temps, puis après ça, il y avait une liberté. Liberté d'aimer. C'est pas qu'on s'est vu, puis là, dire, OK, maintenant on s'endure la face, puis si on se voit, on va se dire bonjour, mais non, au contraire. Tu ne l'as pas à personne, mais on s'est fait une colle. Puis on était tellement contents de se voir. Puis Dieu a fait que c'est mieux qu'avant. Il y a une liberté, une délivrance. C'est ça, vivre sous la grâce. Il y a une chose, c'est même pas fini, là. Donc, l'humilité, une délivrance, mais aussi une restauration. Ce frère, cet ami dans le Seigneur, c'est mieux qu'avant notre relation. Puis j'ai hâte de le revoir. Puis on a expérimenté ça aussi avec d'autres personnes. Ou est-ce que Dieu, quand il restaure, là, si c'est Dieu, ça va pas être comme, ah, OK, c'est un peu comme avant, c'est peut-être un petit peu pire, mais c'est mieux que rien. Non. Avec Dieu, ça va être vraiment évident que c'est mieux. Amen. C'est vraiment, comme on dit en bon français, c'est vraiment plus mieux. C'est vraiment plus mieux, OK? Fait que je sais pas pour vous, là, mais avec ce que je viens d'écrire, vivre sous la grâce, là, c'est gagnant-gagnant. Je veux dire, c'est même une folie de se priver de ça. L'orgueil, c'est de la folie. L'incrédulité, c'est de la folie. Résister à pareille grâce, c'est de la folie, puis on pourrait dire, ouais, OK, le monde est comme ça. Vous savez quoi? Malheureusement, trop de chrétiens aussi sont comme ça. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas découvert la nouvelle réalité spirituelle de vivre sous la grâce. Mais quand on le découvre, mes amis, on ne veut pas rien d'autre. Et un autre regard sur ce qui est arrivé, pensez-y, je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, là, je regarde 2020-2021, je parlais de humilier, je vous ai conté ma petite histoire, mais si je reviens avec ce que Dieu a fait depuis la dernière année et demie, il a brisé ma volonté de toutes sortes de façons. Mes amis, j'avais plein de plans, moi, j'avais plein de bonnes volontés pour faire toutes sortes de choses qui peuvent être bien bonnes, puis Dieu a dit non. Il a brisé ma volonté. Est-ce que quelqu'un est dans mon club? Briser la volonté, mais pensez-y. Vivre sous la grâce, c'est Dieu qui brise notre volonté afin qu'on fasse la tienne, qu'on arrive, et comme Jésus dans le jardin, non pas ma volonté, mais la tienne. Dieu nous sort du marasme, Dieu nous sort de notre misère quand il brise notre volonté. Et je pense que pour le monde chrétien, le plus grand problème 2020-2021, c'est que Dieu, il voulait briser cette volonté. Cette bonne volonté chrétienne. Puis je sais, j'ai vu des pasteurs qui pleuraient. « Seigneur, j'avais des grands projets pour toi, notre église, on voulait faire ça. » Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, savez-vous quoi? Il peut faire des choses grandes et cachées qu'on ne connaît pas. Puis on a beau avoir toutes les meilleures idées. C'est Dieu qu'il faut qu'il soit l'initiateur, puis c'est Dieu qu'il faut qu'il fasse son œuvre. Même si on a tous les beaux grands projets, mais qu'on a fait tout ça avec notre volonté, puis, je veux dire, ça ne va pas faire avancer le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le juste vit par la foi, puis on fait confiance que si Dieu nous dirige comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. On ne comprend pas pourquoi, mais on va y faire confiance. Amen? Ça mène à la deuxième découverte ce matin. Découvrir la nouvelle délivrance spirituelle. On a eu un avant-goût avec ce que je viens de parler, mais regardez chapitre 7, verset 6. « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non de la lettre qui a vieilli. » Découvrir la nouvelle délivrance spirituelle. Et juste comparer rapidement, je vous lis le verset 2 du chapitre 8. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Ici, l'idée, c'est qu'on a deux vérités spirituelles, deux lois spirituelles opposées. Une loi qui m'asservit, puis une autre qui me libère. Et vous rappelez, je vous parlais de la lutte. Je veux faire ceci, puis je ne suis pas capable. Hein, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve en moi une autre loi qui lutte. OK? Cette lutte-là, la fin de cette lutte, c'est d'être sous un nouveau régime. Ici, ça dit sous le régime nouveau de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, dans le sens que déjà je vous ai commencé à vous parler par rapport à la nouvelle réalité spirituelle de vivre sous la grâce, c'est-à-dire se placer volontairement sous le contrôle de l'esprit. Se placer volontairement sous son autorité, sous sa direction. En bon québécois, le laisser caler les shots. Le laisser prendre les initiatives. C'est ça que ça veut dire, être sous le régime nouveau de l'esprit. Tu sais, on parle des fois régime totalitaire, régime communiste. Ouais, c'est peut-être pas, je ne devrais pas dire ça, c'est pas gentil. J'espère qu'on ne va pas être enlevé. On n'est pas sur Facebook, fait que c'est pas pire, je ne peux pas être coupé de là. Mais comprenez, régime, comme un régime politique. Sous le régime nouveau de l'esprit, c'est un règne, une façon de diriger nos vies. Et le trésor se trouve dans le fait de se placer volontairement sous ce contrôle. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on trouve la liberté. La Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lorsque je me place sous la direction du Saint-Esprit, je trouve la liberté. Pourquoi? Parce qu'il me conduit toujours à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ma liberté, vous connaîtrez, oui, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Jésus est la vérité, celui qui libère. Donc, ça peut paraître un peu ironique ou paradoxal que me placer sous le contrôle de quelqu'un me rend libre. D'habitude, quand je me place sous le contrôle de quelqu'un, je ne suis pas libre. OK? Mais pensez à ça. Écoutez bien. Pourquoi est-ce que c'est vraiment... J'essaie pas de vous embarquer dans quelque chose un matin. Pensez-y. N'importe quelle autre alternative... OK, si je me place sous le contrôle de l'esprit, c'est la liberté. OK? Mais là, regardez, n'importe quelle autre alternative. Je me place sous le contrôle de moi-même, d'un autre. De ci, de ça. OK? Par défaut, je vais être sous le contrôle de la chair qui amène toujours à l'esclavage. C'est ça l'idée de Romains 6 et 7. Le contrôle de Romains 6 et 7, c'est quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre que l'esprit. Puis ça amène à quoi? Misérable que je suis! C'est toujours de même. OK? C'est une loi universelle. Comme la gravité, tout ce qui monte redescend. Et c'est là que nous pouvons constater, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, est-ce que vraiment on fait confiance à Dieu? Et écoutez ce que je vais vous dire. Ça ne fait pas de sens de se placer sous le contrôle de quelqu'un d'autre, surtout quand on a une nature pécheresse. La dernière fois que j'ai vérifié, ça aussi c'est universel. Il n'y a personne ici qui est... Non seulement qu'il ne pêche pas, mais qu'il n'y a pas une nature pécheresse qui nous amène à pêcher. Mais ce n'est pas se placer sous le contrôle de n'importe qui. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on se place sous le contrôle de Dieu, le Saint-Esprit, on se place sous le contrôle de quelqu'un de bienveillant, qui ne veut que notre bien, qui donne la vraie liberté, qui vraiment ne veut rien de mal, aucunement dans toutes nos vies. Et pensons-y. C'est seulement par orgueil que je vais penser. Pensez-y, là. C'est par orgueil que je vais penser que si je me contrôle, si moi je veux faire ci pis ça, que c'est mieux que Dieu. Pensez-vous que la délivrance que moi je peux avoir dans ma vie est mieux que celle-là de Dieu? Pensez-y, mais quand si je ne me place pas sous le contrôle du Saint-Esprit, c'est parce que je crois ça quelque part. Je crois un mensonge. Je crois que si je fais à ma façon, c'est croire un mensonge. C'est ça la réalité de la nouvelle délivrance spirituelle. Se placer sous le contrôle de Dieu, c'est là qu'est la liberté. Ça aussi, mes amis, c'est un trésor caché à la vue de tous. Et, vous savez, ça, il faut qu'on le fasse, malgré qu'on ne comprend pas nécessairement tout. Dieu nous dirige à faire quelque chose, à y faire confiance pour ci, à faire confiance pour ça. Mais le juste vivra par sa foi. Dieu ne demande pas nécessairement de tout comprendre, mais d'y faire confiance et dire « OK, Dieu, mais je ne suis pas capable de tout mettre les points sur toutes les i, puis de mettre les barres sur toutes les t, parce que c'est toi qui le dis, je vais te faire confiance. Puis Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Et la semaine prochaine, on va parler un peu de Josué. Mais pensez à ça, là. Imaginez comment ça devait être humiliant. Pour quelqu'un qui est un chef militaire, qui commence une campagne militaire pour prendre d'assaut un pays qui était rempli d'ennemis redoutables, puis la stratégie, c'est de tourner en rond, puis après ça, de sonner de la trompette. C'est embarrassant. Je veux dire, les gens de Jéricho, je veux dire, ils ont perdu la tête. Je veux dire, ils vont avoir pitié d'eux autres. Mais savez-vous, c'était ça le point. Dieu voulait montrer que c'était pas par la force, et tout ça, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'était évident que c'était Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Que c'était pas par quelque chose que Josué ou sa gang avait fait. Puis c'était ça tout le point. Et savez-vous quoi? Dieu a montré à Josué un trésor inestimable qu'il a trouvé par la foi. Il a découvert son Dieu comme il ne l'avait jamais connu avant. Il y a quelque chose de vraiment précieux là-dedans. À suivre la semaine prochaine. OK, juste amener un point par rapport à ça. La délivrance de Dieu, découvrir la nouvelle délivrance. Là, j'ai amené un point important. On peut croire à ces choses, on peut savoir ces choses. Je viens de parler de l'histoire de Josué, on peut toute la connaître. Mais pour vivre ces choses, il faut qu'on le reçoive. Comme ça dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire, c'est une chose. On peut avoir ces choses dans notre tête puis dire, oui, c'est vrai. Mais il faut le recevoir pour nous-mêmes. Il faut, par la foi, le prendre pour nous. C'est là la différence. Puis en passant, c'est ça aussi pour le salut. Mon frère, pasteur Campbell, m'a partagé une tellement merveilleuse nouvelle. Vous savez, quand on apprend que quelqu'un est sauvé, là, waouh! Moi, il n'y a pas de meilleure nouvelle. Une jeune femme qui s'appelle Coralie, donc pas la robe, là, vous pouvez vous doutez. Ça fait un bout qu'elle venait à l'église, puis elle entendait la parole, elle était contente d'être là. Puis elle était contente d'entendre les messages. Puis là, mais pasteur Kimbo et sa femme l'ont rencontrée au début de la semaine, je ne sais plus la semaine passée, en tout cas, il n'y a pas longtemps. Et pose des questions, puis il se rend compte que. OK, elle croyait, oui, Jésus est venu, il est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Elle savait toutes ces choses-là, mais elle n'avait pas encore reçu. Et mes amis, c'est exactement le verset que je viens de vous citer, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le verset que les Campbell ont utilisé pour dire, OK, tu le crois, mais maintenant, il faut que tu le reçoives. Et mes amis, à pleurer de joie quand elle a reçu Jésus comme son sauveur, quand cette bonne nouvelle qui était devant ses yeux, qu'elle l'a pris pour elle. Wow! C'était un changement complet. Maintenant, elle est à l'église et elle témoigne de son salut en Jésus-Christ et elle en est tout contente et tout le monde se réjouit avec elle. Mes amis, si vous êtes ici puis vous avez entendu les choses de la Bible, vous savez que Jésus est mort puis tout ça, mais si vous ne l'avez pas reçu pour vous-même, vous n'êtes pas encore sauvés. À tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu. Croire, c'est voir que oui, c'est là, mais le recevoir, c'est dire, OK, j'en ai besoin pour moi. Savez-vous, c'est vrai pour les non-sauvés qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et pour nous, les enfants de Dieu, ce trésor que Dieu met devant nous. Puis Dieu, je te cherche. Il faut qu'on le prenne pour nous par la foi. C'est la même chose. Parce que la façon qu'on est sauvé, c'est la même façon pour la vie chrétienne. C'est par la grâce au moyen de la foi. Comme on a connu Dieu, on grandit ainsi en lui par la grâce au moyen de la foi. Ça m'amène à la troisième découverte ce matin. Non seulement une nouvelle réalité spirituelle, une nouvelle délivrance spirituelle, mais on termine avec chapitre 8, verset 4, une nouvelle marche spirituelle. Juste plusieurs places, on commence au verset 1. Tantôt, ça a été cité par cœur, par ma femme. Peut-être qu'elle a triché par regarder mes notes de message, je ne sais pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Une nouvelle marche spirituelle. Et je vous cite en comparaison Galates 5:16 qui dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La lutte contre la chair, ce n'est pas d'essayer tant bien que mal de lutter contre ces choses qu'on ne veut pas faire. C'est positivement de marcher par l'Esprit. Et comme ça, on ne va pas accomplir des désirs de cette chair. Dieu ne veut pas qu'on essaie de se battre contre le péché. Il veut qu'on marche avec lui. Puis lui est notre victoire. Lui va vaincre ses tendances pécheresses. C'est sa grâce qui fait tout ça. Et cette marche, quand on parle de marche, il y a une dynamique à ça, puis il y a une communion à ça. Je vous explique. L'idée d'une dynamique, c'est que la vie chrétienne, c'est plus être laissé à nous-mêmes. Juste essayer de vivre notre vie du mieux qu'on peut, puis retrousser nos manches. Non, la vie chrétienne, c'est avoir accès à celui qui est notre vie. Avoir accès à celui qui, justement, est surnaturel. La vie chrétienne, c'est avoir accès au surnaturel. Et c'est ça la dynamique, c'est que maintenant je ne suis plus laissé à moi-même, j'ai accès à Dieu lui-même pour marcher avec lui. C'est ça la dynamique de la marche, mais aussi une communion, c'est-à-dire, non seulement je ne suis pas laissé à moi-même pour savoir quoi faire et ne pas faire, mais je ne suis pas laissé à mes propres pensées. Il y a une communion que j'ai, je ne suis pas laissé à la méditation de mon cœur qui est tout de travers, puis des fois je suis dans mes pensées noires, mes pensées tout de travers, puis découragé. Non, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'Esprit me ramène toujours à Jésus-Christ, toujours aux réalités spirituelles qui sont en lui, aux richesses incompréhensibles de Christ. Même quand je prie, écoutez bien, ça dit de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Puis le même esprit aussi, ça dit, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est la communion du Saint-Esprit qui me ramène toujours à Jésus-Christ. Et cette dynamique, cette communion change complètement la vie chrétienne. Ça me délivre de la religiosité. La vie chrétienne, c'est plus juste une liste de choses à faire ou à pas faire. La vie chrétienne, c'est une personne avec qui je marche de façon dynamique et avec qui je suis en communion de façon réelle. C'est ça, la vie chrétienne. Et mes amis, le degré de repos, de reconnaissance, de réjouissance, de contentement qu'on expérimente dans notre vie, c'est la mesure avec laquelle je peux voir si je marche par l'Esprit. Surtout dans des temps comme les nôtres, avec toutes sortes de difficultés qu'on expérimente de différentes façons. C'est la marque de la présence de Dieu, de l'authentique vie chrétienne remplie par l'Esprit, ou pour venir à tantôt ce que je dis, sous le contrôle de l'Esprit, c'est quand je découvre cette nouvelle marche qui me fait expérimenter ce trésor qui est caché à la vue de tous. Et vraiment, c'est la question qu'on peut se poser, c'est qui est au contrôle? Qui est au contrôle de ma vie? Vous savez, si Dieu est au contrôle de ma vie, il y a des affaires qui vont se passer dans ma vie qui ne seront pas explicables autrement que par Dieu. Savez-vous que c'est ça, c'est supposé d'être ça, la vie chrétienne? La vie chrétienne, ce n'est pas une version améliorée de ce que monsieur, madame, tout le monde peut vivre. C'est une version complètement à part. C'est quelque chose qui n'est même pas comparable. C'est pas comme nous, on a la bonne religion et les autres ne l'ont pas. C'est pas une religion. C'est le Dieu vivant surnaturel qui agit dans la vie de gens bien ordinaires, souvent au courant des... Tu sais, tantôt on priait, c'est vrai, des gens comme les apôtres, des gens... C'est des personnes de même que Dieu prend puis fait des choses extraordinaires. Donc c'est ça, la marque de la vie de Christ dans la vie de quelqu'un. Et mes amis, quand il y a ça, on voit la restauration de Dieu, la délivrance, on voit sa bonté qui se manifeste de toutes sortes de façons. Et mes amis, la seule chose qui bloque ça, c'est notre orgueil puis notre incrédulité. Et si vous êtes ici, vous n'avez pas encore la vie de Jésus-Christ, vous n'avez pas encore le pardon de vos péchés par Jésus-Christ, la seule chose qui vous empêche, c'est votre orgueil puis votre incrédulité. L'orgueil, ça dit, j'ai une autre façon, j'ai pas besoin d'être ça. Moi. Puis l'incrédulité, c'est pas vraiment vrai. Mais pensez-y. Il n'y a pas une religion dans le monde qui va parler de Dieu qui est venu en personne, de façon miraculeuse, pour accomplir une vie sans péché, pour aller mourir une mort expiatoire, une mort à la place de ses ennemis. Et que cette mort est le sacrifice parfait que Dieu demandait et exigeait depuis la nuit des temps. Ça a été accompli par une seule offrande. Il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Et donc, il n'y a pas une religion qui nous parle de ça. Puis en plus, t'as pas fini là, bon, il est mort sa croix, puis la vie continue. Non, il a vaincu la mort. C'était pas la fin de l'histoire. Oui, la rédemption est là. L'amour de Dieu est réconcilié avec sa justice à la croix du calvaire. Mais la résurrection, c'est la victoire sur la mort même, sur l'enfer, sur tous les ennemis qui s'érigeaient contre Dieu. Il les a vaincus, il les a écrasés. Et maintenant, il est vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Amen. Je termine avec ça ce matin. Écoutez bien. On parle d'un trésor caché à la vue de tous. Pensez à ça. Un trésor caché à la vue de tous. Moi, quand je pense à ça, je pense à deux choses. Je vois la dureté du cœur humain. Mon ami, Dieu nous met un trésor. Puis il n'est pas caché tant que ça, mais il veut juste qu'on cherche un peu, puis là, on va le trouver. On voit comment le cœur humain est tortueux, puis comment on essaie d'aller à gauche, puis à droite, toutes sortes de places, sauf au trésor. Mais je vois une autre chose. Je vois la bonté, la grâce, la patience de Dieu, qui laisse là son trésor, puis qui il nous amène à le considérer, qui ne nous laisse pas aller à notre folie, puis à notre incrédulité, puis notre orgueil. Pensez à ça. Écoutez bien, Jérémie, notre prédicateur invité ce matin. Écoutez, Jérémie. « Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » C'est un trésor qui est caché à la vue de tous parce que Dieu veut simplement qu'on cherche, comme je disais tantôt, pour qu'on trouve que c'est précieux, qu'il n'y a rien de plus grand, de plus merveilleux. Et voici une illustration sur laquelle je veux terminer, puis qui va nous aider à comprendre un peu en quoi c'est un trésor. Vous savez, le livre le plus vendu de toute l'histoire de l'humanité, c'est la Bible. Le deuxième après ça, c'est celui écrit par cet homme, John Bunyan. Et il a écrit plusieurs livres, mais le grand classique qu'il a écrit, c'est quoi? Le voyage du pèlerin. Pilgrim's Progress. J'ai jamais trouvé Progress. Mais c'est en vieux anglais, j'imagine que c'est peut-être... Parce que ça fait 500 ans. Là. John Bunyan vivait à une époque où l'immoralité ravageait la Grande-Bretagne où est-ce qu'il vivait. Pourquoi? Parce qu'elle était dirigée, gouvernée par un pays corrompu, par des gouverneurs, une royauté corrompue et immorale. Et dans ce contexte-là, le gouvernement qui se dit être la tête de l'Église, okay, c'est les anglicanes, okay, vous connaissez un peu l'histoire, ils avaient rejeté les catholiques, puis ils ont dit, bon, on va fonder notre religion, puis bon. Okay, donc il y avait cette Église d'État qui avait décrété que ça prenait une licence pour pouvoir prêcher l'Évangile et avoir une réunion d'Église. C'est drôle que des fois, plus ça change, plus c'est pareil. Hein? Mais à quoi John Bunyan a répondu « Dieu va prendre soin de moi tant que je fais sa volonté. » Et il a rajouté « Je ne peux pas souiller ma conscience alors que Dieu a tant fait pour moi. Ainsi, je ne peux pas empêcher quiconque d'entendre la parole de vie juste parce que quelqu'un du gouvernement corrompu me dit que je ne peux pas prêcher sans avoir de licence. » Et cette conviction lui a coûté 12 ans de sa vie en prison. Où est-ce qu'il voyait de façon très sporadique et courte sa femme et ses enfants? C'est pas le seul. Il y a un auteur qu'on aime bien, il s'appelle Watchman Nee. Et lui est né en 1905, mais en 1952, il s'est retrouvé en prison parce qu'il prêchait l'Évangile, puis il a passé les 20 dernières années de sa vie. Il est mort en 1972 en prison à cause de l'Évangile. Maintenant, pourquoi quelqu'un se donnerait tout ce misère-là? Non, ça aurait été bien plus facile de dire « Ok, je vais faire comme ils disent. » Non, parce que, premièrement, il y avait un Dieu qui orchestrait tout ça. Il y avait un Dieu souverain qui est au contrôle de la vie de John Bunyan, qui est au contrôle de la vie de Watchman Nee, qui est au contrôle de nos vies. Mais savez-vous quoi? Ce Dieu-là orchestrait ces choses pour amener ces simples personnes comme vous et moi à découvrir le trésor extraordinaire. Et quand on lit ce que ces gens-là ont écrit, on se rend compte, wow, ils l'avaient trouvé, le trésor.
Amen.
Parce que lisez John Bunyan, lisez Watchman Nee, ils ont trouvé le trésor. Ce trésor, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et évidemment, personne n'aime souffrir, personne n'aime l'inconfort. Mais est-ce que comme Bunyan ou Watchman Nee, est-ce que notre désir pour Dieu, pour sa gloire, est plus grand et plus fort que nos instincts d'autopréservation? Mes amis, c'est ça, le trésor qui est caché à la vue de tous. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ou le trésor, oui, d'être en communion avec lui par la puissance de sa résurrection, mais aussi dans la communion de ses souffrances. Ou un autre verset qu'on aime prêcher à moitié, « Christ est ma vie! » C'est quoi la fin? « Mourir m'est un gain! » Tout ça revient à ce simple constat, mes amis. Et c'est mon appel ce matin. Est-ce que la puissance de la peur m'empêche de rechercher le trésor que Dieu a mis là, à la vue de tous, caché à la vue de tous? Ah, j'ai peur, parce que c'est vrai. Il y a des conséquences. Si je cherche Dieu, je vais le trouver, mais il y a des conséquences à ça. Où est-ce que la puissance de la foi m'attire au point de briser ses entraves et de dire, comme ce verset que j'aime tellement dans Psaume 27,4, écoutez ce que David dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. » Ça, c'est les mots de quelqu'un qui avait trouvé le trésor, qui avait trouvé Christ. Même dans l'Ancien Testament, pourquoi? C'est l'espérance d'Israël. Et le roi David, on va le voir au ciel, c'est un saint de l'Ancien Testament. Lui, regardait à la croix par en avant. Nous, on regarde par en arrière. Et donc, mes amis, qu'est-ce que vous allez faire en réponse à ce que Dieu a dit ce matin? En fait, si on résume, Dieu nous met devant les yeux le plus grand des trésors. Puis il dit, ouais, mais moi, ça ne compute pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Du coup, ce qui est merveilleux avec Dieu, on peut toujours aller avec lui. Dieu, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je vois ce trésor. Seigneur, il me semble que je cherche et je ne le trouve pas. Dieu, je te cherche. Aide-moi à le trouver, à te trouver. Jésus a dit, je ne vais pas mettre dehors celui qui vient à moi. La Bible nous promet que Dieu est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Donc, vous êtes ici un matin, vous n'avez pas toutes les réponses. Pas grave. Allez à celui qui est la réponse. Et c'est comme ça que je veux terminer. Allons avec n'importe, je ne sais pas, les besoins de chacun ici. Certains ont besoin d'être réconciliés avec Dieu par le sang de la croix. D'autres ont besoin de revenir au berger de leur âme. D'autres ont besoin simplement de ramener les regards sur Jésus et de les enlever des circonstances, peu importe c'est quoi. Allons à celui qui est notre trésor. Seigneur, merci ce matin. Du fait que tu es le Dieu vivant, que tu vis, que tu règnes éternellement. Et Seigneur, c'est clair dans ta parole, tu es un trésor que rien dans ce monde ne peut comparer. Seigneur, on l'a chanté, j'aimerais mieux avoir Christ que les plus grands biens. Il n'y a rien de plus grand, de plus merveilleux que de te trouver, Seigneur. Je te prie que ceux qui sont sans toi ce matin, sans la vie de Jésus-Christ, sans la réconciliation qui vient par le sang de la croix, qui viennent à toi, qui est vivant pour sauver maintenant quiconque s'approche de toi par la foi. Qu'il s'humilie et qu'il croit que tu es la provision, que tu as pourvu pour tous leurs péchés, pour la vraie vie qu'ils sont en train de manquer en ce moment. Seigneur, tu es là, les bras grands ouverts. Et tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez le repos. Seigneur, je te prie pour tes enfants. Tu vois, nous sommes ton peuple. Je te loue de ta grâce. Je te loue que beaucoup ici cherchent et t'es en train d'ouvrir leurs yeux. Tu ouvres nos yeux sur ce trésor merveilleux. Mais Seigneur, il est tellement grand. En fait, tu nous décris comme des richesses incompréhensibles. Ça dépasse l'entendement, Seigneur. Je te prie d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, que nos désirs nous consument de connaître Christ. Oui, la puissance de la résurrection, mais aussi la communion de ses souffrances. Qu'on ne se laisse pas arrêter par la peur, mais que la foi nous pousse vers celui qui est notre rémunération. Seigneur, bénis ce temps où est-ce que maintenant ton peuple va répondre à ce que tu leur as dit et que tu en aies la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.